Bonjour, soyez les bienvenus avec Leïla Kadokoudadim. Tu dis que vous, mais non, ok. Morgane Casignan, Florence Mendez, Tanguy Pastureau, Jérémy Crédil et notre invité, Monsieur Louis Bertignac.
J'adore.
Louis Bertignac.
Louis Bertignac.
Ouais.
C'est les
non, c'est pas encore le blind test.
Ces idées-là. Bertignac, ces idées-là.
Ah ouais.
Je faisais du cœur à chaque fois. J'en ai embrassé des filles de CM2 à cette époque-là. J'étais moi-même en CM2.
Oui, s'il te plaît.
On va en parler avec lui, évidemment, mais il raconte tout. Il raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie musicale, dans sa vie privée.
Il n'y a pas qu'un tome, alors.
Et écoute, en tout cas, il y a du lourd. Il y a du lourd, c'est extrêmement dense. Il y a beaucoup de stars, évidemment. Il n'y a pas que Téléphone, il y a aussi les Rolling Stones, il y a Capeldon, il y a des rencontres absolument incroyables.
Ah, Carla.
Il parle évidemment, il parle de ses amours, il parle aussi de quelques soirées, on va dire, plus chargées
rock'n'roll,
que d'autres.
Quoi.
Voilà, Sex, Drugs et Rock'n'Roll, c'est au programme.
La
on
vie.
Va en parler avec lui, mais ou pas.
Et ce serait pas ça le blind test, le thème?
Non.
Ah, dommage.
Le blind test, il est là.
Hop,
Jérémy.
Ayana Kamura.
Je me rappelais plus de mon prénom.
Pardon, hein.
Je me rappelais plus.
Non, mais.
Phrase.
Je.
Ouais,
Jean-Pierre.
En même temps, j'aime bien laisser ce point-là.
Qui chante ça?
Jérémy. Ouais. T'es toute nue, c'est mon boule, c'est Joli Môme.
Bravo.
Mais qui chante?
Mais qui chante?
Ah bah oui. Florent Pagny.
Non, c'est pas Florent Pagny.
C'est la reprise.
C'est pas Marcel Amont.
Mais non, mais non,
Leïla.
Mais non,
Florence Bourville.
Oh, donne-le-moi.
Ouais, je te le donne.
C'est Léo Ferré.
Léo Ferré, mon Dieu.
Oh là là.
Oh non, bah oui,
on est nuls.
Bon, je l'accepte, mais.
C'est la joie de vivre, on l'a pas reconnu du coup.
Joli môme.
Qui chante ça?
Jérémy, c'est pas du Pauline ou un truc comme ça, ça?
Non.
Du Rose?
Non plus.
Isabelle?
Ah non, la grande Sophie?
Non.
Petite jolie chose. Ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie.
Ah. Alors je vais vous aider,
Joyce Jonathan.
Exactement, et Louis Bertignac qui a produit cette chanson. Bien joué.
Ah oui.
3 points pour Jérémy, je crois que ça n'est jamais arrivé. 2 points pour
moi. Non, il y a Morgane. Il y a Morgane à point.
J'ai oublié mon prénom au début.
Qui chante ça?
Qui va chanter ça? C'est français?
Ouais.
Elle est née dans la Paris. Tanguy.
Oui.
Stone et Chardin.
Non.
Dieu, mais que Marianne était jolie. Comment il s'appelle?
Ah, Michel Delpech.
Oui.
Mais
que Marianne était jolie.
J'ai que les titres.
Quand elle marche dans les rues de Paris.
Ah oui, c'est vrai.
En chantant à pleine voix.
Ça ira.
Allez, tous ensemble.
Ça ira.
Plus fort,
jusqu'à quand?
Pas.
Toute la nuit.
À vous.
Qui chante? Oh, années 80.
Total.
Ah, tu
Jonas,
reconnais le riff?
Non. Non, mais ça c'est une.
La caisse claire, le truc qu'on faisait qu'en 84.
C'est un remix, hein.
Ah. Ah ouais, mais. Jérémy,
ah
ouais,
joli.
C'est joli, mais.
Tanguy,
ouais, c'est
Philippe
ça.
Châtel.
Non, t'as raison. Oui,
c'est
Tanguy,
pas
oui, c'est ça, exactement. Philippe Châtel. Bien joué.
Ah, c'est la veille, d'accord.
Oh, c'est un remix. La nuit. Laisse tomber, c'est un remix. Qui chante ça? Qui chante ça?
Ah, mais attends, c'est pas eux?
Non.
Brassens.
Ah, c'est Brassens.
Oui, ouais,
tu l'as eu.
Bravo.
Ah,
ouais. Une jolie fleur dans
deux notes, une moustache.
Jean Brassens.
Une jolie vache déguisée en flore.
J'ai perdu ma couille.
Qui fait la belle.
Qui a perdu quelque chose?
Florent, bah, j'ai perdu ma couille.
Moi, c'est le mec Lève.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Mais c'est dans Podium.
Non, c'est ça, oui. Référence à Podium. Pour l'instant, un point pour Leïla, un point pour Morgane, deux pour Tanguy, deux pour Jérémy. Tout se joue. Vous avez compris le thème. Il y a forcément joli. Dans le titre, en référence à Jolie Petite Histoire.
Moi non plus.
Moi non plus.
Ah, il y a des jolis partout. Et là, ça rapporte 4 points à la victoire.
C'est pas Sanson, Jérémy?
Non.
Bravo.
Leïla, c'est Barbara?
Non.
Ça commence par
Jérémy, Françoise Hardy?
Non.
Elle était si jolie.
Ah oui.
Ah la vache.
Ah, mais si, bien sûr. Adamant, Leïla, Adamant.
Non.
C'est pas Alain Barrière.
Si.
Alain Barrière.
Alain Barrière, oh, Tanguy, ouais, joli.
J'avais Geste Barrière, bien, mais c'est pour ça que c'est un mot.
Alors, qui a lancé les gestes. Les victoire de Tanguy Pastureau et merci d'accueillir bravo. Louis Bertignac.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue Louis, ravi de vous accueillir.
Bonjour.
Cher ami, bienvenue avec ces... Alors, juste une question sur Jolie Petite Chose.
Jolie Petite Histoire.
Oui, non, mais je parlais de Jolie Petite Chose de Joyce. Parce que je sais que vous avez bossé avec Joyce Jonathan, mais est-ce que c'est vous qui avez produit ça?
Ah ouais?
Non, je vous demande, si c'est vous.
J'ai produit le premier album, non, je crois pas celle-là.
Ah, c'est pas vous qui l'avez envoyé à Fort Boyard.
Non, c'est un carnage.
Ah ouais.
Non, Jolie Petite Histoire, c'est évidemment la référence à cette chanson qui était un succès phénoménal.
Jolie Petite Histoire.
Cendrillon. Chanson qui résume bien ce qu'il y a dans le livre, en tout cas en termes de musique. C'est-à-dire qu'on voit la création de cette chanson, vous racontez beaucoup de choses sur vous, y compris comment vous arrivez avec une mélodie, comment on ralentit cette mélodie en disant non, ça va trop vite et ça finit par être un slow au début, mais quand même, il y a un moment, il faut que ça s'envole et donc là, ça s'envole. Puis la frustration de se dire... Bah, c'est moi qui l'ai écrite. C'est pas une chanson d'Aubertignac, qui était le fameux duo qui écrivait paroles et musique de toutes les chansons. C'est aussi un titre qui a été presque un frein à la carrière américaine aussi de Téléphone. Il y a beaucoup de choses dans cette chanson.
C'est une grosse histoire cette chanson, ouais. Puis c'était mon premier, le premier morceau que j'avais composé, qui était un single, quoi.
Donc, parce qu'il y en avait d'autres pour Téléphone que vous écriviez et qui n'étaient pas sortis en...
Ouais, c'est ça, voilà. Comme 2000 nuits comme avant, des trucs ça. Que je chantais, mais qui étaient des chansons de deuxième rang dans les albums. Celle-là, elle a marché, je m'y attendais pas, et il faut dire qu'elle a été très bien réalisée par Bob Ezrin, justement, qui m'a conseillé de la ralentir, de baisser ma voix, qui était « Cendrillon, pour ses 20 ans !» Et c'était du « Cendrillon, pour ses 20 ans !» Et c'est vrai que ça, à la fin, on s'est dit, ouais, bah, c'est un tube, ok.
Et alors, c'est parti en plus d'un délire sur presque les idoles de Disney version trash, on va dire, et puis mélangé avec l'histoire de Romy Schneider aussi, à laquelle vous pensiez en l'écrivant. Donc tout ça est raconté, et joliment raconté, même si tout n'est pas joli, entre guillemets, dans le livre.
Dans ma vie.
c'est pareil. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment votre regard sur ce qui s'est passé dans les rencontres. Du téléphone, il y en a, mais pas tant que ça, parce que finalement, même si c'est une grosse histoire musicale pour tous les Français, les amateurs de musique, grosse histoire musicale pour vous aussi, ça n'a pas duré si longtemps que ça, l'aventure téléphone.
Ça a duré 10 ans, donc c'est même pas un sixième de ma vie.
Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a une amitié avant, il y a une amitié après, il y a une amitié encore aujourd'hui, même si la durée de sortie d'album n'est pas si longue que ça. Vous parlez de tout, y compris de choses extrêmement personnelles. Est-ce que vous êtes interdit, empêché de quelque chose aussi en disant non, je vais pas aller là-dessus?
Non. Non, franchement, j'ai pas fait attention, j'ai juste raconté des trucs que j'ai vécu. Alors que parfois, il y a des trucs un peu durs, et comme j'étais pas le seul dans ces cas... Ça a pu...
Blesser des gens?
Blesser des gens, c'est possible, ouais. Mais au moment où je l'ai écrit, j'ai vraiment pas fait attention à ça.
Et il
y a eu des coups de fil après?
J'ai eu un ou deux coups de fil après.
Je pense à Corinne.
Corinne m'a pas appelé, mais ça fait 10 ans qu'on s'est pas appelé, donc
ça
va. Mais Corinne, je dis pas de mal d'elle, je dis juste des trucs qu'on a vécu. Et... Par exemple, l'histoire quand on s'est engueulé et qu'on s'est retrouvé dans le fourgon de police parce qu'on gueulait et qu'on continuait à gueuler, qu'on s'est retrouvé au commissariat et qu'on a continué à gueuler.
Et que les gens qui étaient en garde à vue au commissariat ont dit « Vous voulez pas les foutre dehors, eux, parce qu'on a arrêté de gueuler, on n'arrive pas à dormir. »
Même les putes et les clodos voulaient nous virer.
C'est une bonne méthode pour sortir de garde à vue, ça. C'est...
Non, ouais, ça a été vif, ça a été rapide.
De dire qu'il y a des histoires d'amour, qu'il y a eu une histoire d'amour entre vous et Corinne, que vous avez presque imposé Corinne dans le groupe au début parce que Jean-Louis n'en voulait pas, qu'ensuite est devenue une histoire d'amour entre Jean-Louis et Corinne, et que il y a quand même la phrase qui a été dite un jour en disant bah maintenant on est tous les trois, c'est un truc de mec, c'est bien qu'il n'y ait pas de fille, et on va s'amuser tous les trois à faire les insus. On peut pas dire que elle puisse le lire avec le sourire.
Non, mais cette histoire, elle la connaît, donc. De la lire,
elle connaît
ça
peut-être
rien.
Pas votre point de vue, elle connaît peut-être pas votre vision.
Oh si, je crois, on était collés l'un à l'autre à l'époque. Et le problème qu'il y a eu dans Téléphone, c'était surtout que on était quatre potes au départ, et avant de faire Téléphone, j'avais quand même envie de jouer avec Corinne, parce que c'était la meilleure bassiste que je connaissais, et qu'elle était pas seulement une bonne bassiste, mais c'était quelqu'un de bien. Et on s'est retrouvés à deux potes et un couple.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et au moment où j'ai enfin réussi à casser notre couple, eh ben, on s'est quand même retrouvés à deux potes, Richard et moi, et en couple, Jean-Louis et Corinne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu être quatre potes comme un vrai groupe de rock.
Si, trois potes, les insus.
Après, on a fait les insus.
Voilà, c'est ça qui est. C'est...
Ouais. C'était la même chose sans Corinne et évidemment sans problème.
Et avec
ça ne veut pas dire que Corinne est synonyme de problème. C'était
non,
juste.
C'est dans votre alchimie à tous ensemble, voilà. Ça fonctionnait moins bien.
Quoi. Et puis il y a des rencontres de dingue. Alors évidemment, il y a toute la partie vie privée. Il y a l'éducation. Il y a votre famille. Il y a le. Ouais. Il y a votre la famille d'où vous êtes issu. Puis il y a celle que vous avez construite ou celle que vous avez construite au pluriel avec une formidable histoire d'amour maintenant avec Laetitia, mais avec d'autres passages aussi un peu plus violents sur la maman de vos premiers enfants qui vous quitte pour un pote, mais presque vous la prenez presque par un problème de wifi à la maison, quoi.
Ouais, ouais. Bon, c'est la vie. On est nombreux à avoir connu des trucs comme ça. Oui. J'avais l'ordinateur qui... Je m'étais cassé un orteil, donc je voulais lui demander un truc. Donc j'ai été voir si elle n'était pas sur un ordinateur qui était à l'étage. Donc j'ai fait le machin...
Le partage.
Contrôle d'ordinateur.
Ouais. Voilà. À distance.
Et je voulais lui laisser un mot au cas où elle passait devant là-haut. Mais
sur
j'ai vu qu'elle
ordi.
Était en train de parler à son amoureux. Ouais, à
qui était votre pote.
Et qui était mon pote, ouais.
Voilà. Oui, bon après...
Bon, j'étais surpris, mais bon...
Il avait cassé leur tête.
Voilà, dans le livre, vous racontez aussi comment Corinne a pu vous surprendre après un concert dans une porte... Enfin, dans un petit local à côté de sa loge, dans une situation un peu
pantalon
plus embarrassante.
On dit pantalon sur les chevilles.
Voilà, donc bon, finalement, l'arroseur arrosé, je sais pas comment le dire. Enfin, on est trompé, on trompe, et voilà.
C'est la vie, c'est la vie. Il y a des moments super, il y a des moments un peu désagréables.
Il y a tout là-dedans, et puis surtout, il y a un casting de musique. Il y a des histoires incroyables, notamment avec les Rolling Stones, où là, il y a des tonnes de choses qui sont dites, avec aussi beaucoup d'objectivité, c'est-à-dire que vous n'aggravez pas la situation, vous n'embellissez pas non plus la situation, style, on est potes et on est potes à vie, parce qu'il y a les histoires du circuit automobile qui est assez croustillante là-dedans, avec Ron Wood, si ma mémoire est bonne. Mais pour préciser les choses, vous êtes dans un studio parisien, en train de préparer un album, et puis on vous dit il va falloir faire de la place parce que les Rolling Stones arrivent pour enregistrer l'album. Et vous êtes depuis toujours fan des Stones.
Ouais. Ouais, on nous dit rien, on nous dit rien en fait. On savait qu'ils allaient venir répéter.
D'accord.
Nous, on était
parce qu'ils venaient de signer dans la même maison de disques.
Ouais, on était chez EMI. Nous, on était dans le studio C, eux, ils allaient arriver dans le studio A. Bon, on a soudoyé un peu deux jours avant qu'ils arrivent, le matos était installé, tout le matériel était en place. Et donc, on avait envie d'entrer dans leur studio avant qu'ils arrivent. On a soudoyé le gardien, c'est-à-dire on l'a fait fumer.
Et j'ai oublié de préciser, il y a beaucoup de drogue dans le
livre. Bah oui, dans ma vie, il y en a eu. Et donc, ils nous ouvrent la porte, finalement. On joue sur le matériel des Stones. On était contents, c'était pas génial, mais on était contents de jouer sur le matériel des Stones.
Est-ce que ça sonnait vraiment différemment, le matériel des Stones?
Ça sonnait vraiment pas bien.
Ah bon, en plus?
Non, j'étais vachement déçu, parce que... Bon, enfin, c'est pour les amateurs de matériel, mais les autres passaient dans une minute.
C'est amusant de dire.
Il y avait
dire.
Des boogies, c'était des amplis qui étaient pas faits pour le rock.
Et c'était pour l'album Some Girls, pour ceux qui veulent des précisions, sur lequel il y avait Miss You.
Exactement.
Et puis vous faites un tout petit peu gauler, c'est-à-dire que non seulement vous jouez sur leurs instruments de musique, mais vous buvez leur whisky.
Un peu de whisky.
Vous mangez leurs chips ou leurs cacahuètes ou je sais pas trop quoi.
Il veut qu'on l'appelle Mick.
Ce qui fait que c'est comme ça que vous faites gauler, c'est-à-dire que d'un coup quelqu'un vient vous voir en disant est-ce que c'est vous qui avez fait des miettes sur mon clavier ?
Oui, la veille, c'était le lendemain de ça, et la veille de l'arrivée des Stones, il y a un mec qui s'appelle Ian Stewart qui était leur
clavier.
Leur clavier et leur maître d'œuvre, leur rodi, quoi. le patron de l'Hérode qui vient nous voir, il dit, vous avez joué sur le matériel des Stones? On dit, oui monsieur.
Il dit, mais, bien sûr.
On est désolé.
C'est pas super.
Ouais, il le mec, pas il faisait 2 mètres et 1 mètre de large. Et on lui dit, on est désolé. Et puis on avait peur qu'il nous colle un procès ou un coup de poing, quoi. Et il nous dit, bon, ne recommencez pas. On dit, oui, d'accord, monsieur.
Non, mais ne mangez pas. C'est-à-dire qu'il vous reproche surtout les miettes, quoi. Il vous dit, ne salopez pas.
Oui, oui, parce qu'il y avait quelques restes de chips sur la caisse claire de Charlie Watts.
C'est pas mal, hein.
Mais c'est pas cool.
Charlie Watts, que vous aimiez.
On était des jeunes cons, quand même.
Que vous aimiez d'amour et vous retrouvez à faire des bœufs, des impros avec Charlie Watts, avec Ron Wood.
Ouais, c'est avec Wyman surtout et Watts.
Ah oui, c'est ça, c'est Wyman et Watts, ouais.
J'avais l'impression que je les connaissais depuis toujours. Parce que quand j'étais gosse, j'avais 15 ans, j'écoutais leur musique au casque, je fermais les yeux, je jouais avec. Et c'était des heures et des heures chaque jour. Et j'avais presque l'impression qu'entre deux morceaux, ils me disaient, c'est bien, petit Louis, tu progresses. Donc, quand je les ai croisés, j'avais l'impression que je leur avais déjà parlé.
Vous
c'était
souvenez,
bizarre
bien.
comme situation.
Vous m'avez dit que c'était bien.
Il y a des rencontres formidables, il y a des anniversaires incroyables avec un casting de fou, ouais. Là aussi, et ça finit en bœuf aussi. Il y a beaucoup de drogue, et alors je le précise, il y a absolument pas
d'encouragement.
Non, loin de là, dans le
non,
livre.
Non,
vous dites...
Non, j'ai arrêté, je suis content d'avoir arrêté, mais... Voilà, c'était des erreurs de jeunesse, mais tournait autour des musiciens de rock à l'époque, tout le monde arrivait, tu veux pas une petite ligne.
Non, et vous dites clairement, c'est pas ce qui donne le génie, c'est pas ce qui donne le talent, c'est pas parce qu'on prend des lignes de cocaïne qu'on est génial.
Non, au contraire, ça a plutôt tendance à te faire oublier vraiment ta vocation. Mais, voilà, c'était une distraction à la con, mais,
à tel point d'ailleurs, vous expliquez que Ron Wood était dans un état lamentable et ne réussissait pas son solo,
ouais,
parce qu'il avait pris trop de drogue.
Probablement.
Et,
ouais.
Et vous lui suggérez quelques notes de musique, en tout cas pour se lancer, parce qu'il il se faisait presque rejeter par le reste du groupe en disant mais non, ton solo est mauvais, c'est Keith Richards qui va te remplacer sur ce solo-là.
Ouais.
Et vous lui sauvez le solo.
Ouais, on peut. Je sauvais. J'ai réécouté le solo final. C'est pas génial non plus.
Ouais, mais ça c'est vous.
Ça me ressemble en plus.
Louis Bertignac, jolie petite histoire, c'est au singulier, mais il y en a plein, il y en a des milliers d'histoires, et qui passent, par, encore une fois, par le monde de la musique, par le monde du show business, il y a un casting de dingue, il y a la vie privée, et puis il y a aussi les valeurs de la vie, mais je continue de le dire pour que personne ne soit vexé, c'est votre point de vue, c'est votre sentiment, c'est votre vécu, encore une fois, après, sûrement, ce qui peut se passer même dans ce studio-là, chacun peut repartir du studio en racontant une autre histoire de ce qu'il aura vécu pendant cette heure et demie.
Évidemment.
Même si on y a tous été, quoi.
C'est ma vision du truc que j'ai vécu.
C'est publié au Cherche Midi, ça se lit et ça s'écoute. C'est-à-dire que moi, j'ai... Tu parles de l'écriture ?
Oui, ça a été écrit en collaboration, c'est ça ?
Ouais, avec Guy Carlier, qui m'a poussé à le faire. Et il m'a aidé à le commencer. Et puis, il était là du début à la fin aussi... pour m'aider à
mettre en forme, à organiser.
Forme,
non, c'est très fluide, c'est très agréable à lire. Et quand moi, je l'ai vraiment lu comme ça, j'ai mis la playlist au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous racontez Gimme Shelter avec la choriste qui a une voix de dingue qui fait tout le morceau, je me le suis écouté. Quand vous parlez de Jack ou de ces idées-là, je l'ai mis en même temps. Et puis la version live avec ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les chœurs, on peut pas s'empêcher de chanter sur ces idées-là aussi. Enfin,
C'est pas forcément aussi faux qu'il l'avait fait ce jour-là.
Peu importe, l'important c'est de participer.
Voilà. Mais c'est grâce à eux que j'ai poussé cette gueulante que j'ai gardée sur le disque d'ailleurs.
C'est ça qui est drôle, c'est ça. C'est-à-dire, les chœurs n'étaient pas justes et en live, c'était Serge qui était...
Serge et Corinne. On était sur une jonque à New York, on s'entendait mal, c'était notre premier concert des visiteurs. Et on jouait ces idées-là et au milieu, il y a ce passage où il n'y a plus que Serge et Corinne qui font... Et on s'entendait mal, il y avait des retours pourris, et du coup c'était super faux. Et ça fait que au moment du break de batterie qui suit ce passage, j'ai poussé un hurlement pour me défouler. Et
passons à autre chose, quoi.
Ouais,
c'est ça.
C'était et puis ils m'ont dit ce hurlement était vachement beau, il faut le garder. Mais à l'époque j'aurais pas dit oui, mais c'était à cause de vos
comme Jacques Brel avec Chopin.
Ces idées-là.
Louis Bertignac est notre invité jusqu'à midi et demi au Cherche Midi. Il publie donc Jolie Petite Chose. Nous sommes ravis de l'accueillir.
Petite histoire.
Nagui, oh, je vais vous frapper.
Non, mais c'est à cause du titre qu'on a passé tout à l'heure. Je suis désolé. Jolie Petite Histoire. Et elle ne vous aime pas non plus. C'est Morgane Cadignan.
Ah, Louis Bertignac, je vous aime pas, et parce que je pense qu'au fond, vous êtes quelqu'un d'un peu malhonnête. Je vous soupçonne vraiment d'avoir écrit le bouquin juste parce que le titre collait trop bien. Franchement, biographie, Jolie Petite Histoire, ça aurait été trop con. Franchement, faut le faire. Vous la voyez arriver, la biographie de Christophe Maé qui va s'appeler « Il est où le bonheur ?» À mon avis, on va pas y échapper, quoi. Non, en vrai, je trouve ça chouette que votre biographie n'arrive que maintenant. Merci, parce que maintenant, les gens sortent leur mémoire à 22 ans et demi. Chapitre 1, je suis née, je suis allée au collège, et puis bah voilà, quoi. Allez, on se lance sur un prologue. Vous avez vécu, et c'est pas une question d'âge, hein, pardon, vous faites très très jeune d'ailleurs, c'est fou d'avoir autant de cheveux. Genre, mais c'est vrai. Non mais regarde, la calvitie, elle est passée à côté de vous sans vous voir, quoi. Pleine balle concentrée sur Jérôme Commandeur.
De dessous.
Et on en apprend toujours beaucoup de choses dans les biographies de musiciens, spécialement des rockers. Ça fait un peu rêver les gens, on y va à fond dans le cliché. On imagine des engueulades dans un groupe, de la drogue dans les loges, des histoires d'amour compliquées avec des membres du groupe, et en fait, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Mais merci Louis, enfin quelqu'un qui ne déçoit pas le fantasme à l'écrit, j'entends. Parce que moi, je suis arrivée ici en me disant le monde du showbiz, mais je vais partir dîner avec Nagui le lundi soir, je vais me réveiller le mardi midi en slop avec David Guetta dans un conteneur en partance pour le Brésil. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. On me pose souvent la question, c'est comment les fêtes dans le milieu, et je pose souvent la question en retour, mais de quelle fête tu me parles? Vraiment, les amis, le truc le plus chaud chez la majorité des gens ici, c'est leur thermos de thé. Hein. J'ai fait une seule fois la fête avec Nagui, et c'est véridique. Un moment, je l'ai croisé, il m'a dit je suis pompette.
Jamais dit ça.
Si,
c'est après l'auto bingo.
Je connais pas les expressions.
La déception, quoi. T'imagines Jimi Hendrix à Woodstock, I am a little pompette. Les gars, je vais me coucher, remettez bien la guitare dans la housse, je veux pas l'abîmer. Bah non. Donc à tous ceux qui me posent la question, vraiment, on est très très sage. On sucre pas notre café avec des amphétamines. On se réveille pas à Las Vegas avec un blackout et une alliance. Et je n'utilise que très rarement le bas du dos d'une mannequin lituanienne pour signer des contrats parce que j'ai pas de table. Donc oui, merci de revenir mettre un peu de rock parmi nous. Ce livre, il me donne l'impression que vous aurez éternellement 20 ans. Et là où c'est fort, c'est qu'il me donne moi aussi l'impression que j'aurai éternellement 20 ans. Une biographie de quelqu'un qui a fait plein de choses, qui a beaucoup aimé, qui s'est beaucoup gouré aussi, ça me file de l'énergie à moi. Ça vient un peu contredire tous les comptes Instagram de yoga qui me rappellent tout le temps que la vie est courte. Parce que non, elle est longue la vie, et c'est une très bonne nouvelle. Ça laisse le temps pour faire plein de trucs, des groupes de musique, des albums pour soi, des enfants, des albums pour d'autres, des enfants à d'autres et des groupes pour soi. Alors, Louis Bertignac, merci de nous donner cette envie de tenter assez de trucs pour un jour écrire un livre qui, pour avoir un titre qui colle, s'appellera certainement La Bombe Humaine.
Yeah. Merci Morgane.
Morgane qui sera ce soir, vendredi et samedi, à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence.
Merci.
C'est bien dit.
Mais ça.
C'est
vraiment bon.
Ça.
Rien d'autre.
Ou encore. Ah, évidemment, on parle beaucoup de téléphone dans Lyon. Mais on parle et vous écrivez aussi beaucoup sur les autres. Et les chocs. Finalement, que vous rencontrez en écoutant les sons, vous êtes en studio et vous entendez Police et vous dites « c'est pas possible, on peut pas sortir l'album qu'on est en train de faire parce qu'il va se passer ça dans le monde musical. » Et là, on est à la ramasse, on est trop en retard.
On venait de finir, on venait de terminer le celui qui s'appelait... je sais plus. Ouais,
c'est un bon dur limite, non?
C'est le deuxième, c'est en fait... je sais pas les titres.
Eh ben, Crash ton venin, avec Fait d'hiver et
en fait, j'arrive à Paris, je fais écouter à deux petites copines, pas des groupies, des copines, et j'étais assez fier de l'album, je leur fais écouter ça. Ah, parce qu'on couchait pas ensemble.
Et voilà.
J'en fais écouter ça. Et elle me dit, ouais, c'est super, tiens, on veut te faire écouter un truc. Elles me font écouter le premier Police. Et là, j'appelle François, le manager, je dis, écoute, j'ai entendu un truc, qui est vachement bien, on peut pas sortir notre album, il faut le refaire.
C'est fou.
Et j'ai dit, non, il faut absolument le refaire. Il me dit, mais t'as sauté un plomb, t'as fumé. Non, je suis astreint, il faut le refaire. Il me dit, écoute Louis, repose-toi, fais un bon dodo et on en reparle demain. Et puis demain, j'ai foutu la paix et puis il est sorti comme ça. Et bon.
Et tout va bien. Non, mais ça prouve aussi la manière avec laquelle vous admiriez le travail des Beatles, en étant beaucoup plus Rolling Stone que Beatles. Mais il y a quand même des solos sur Something, par exemple. Vous adorez aussi le jeu de guitare de George Harrison sur ce titre. Il vous racontait donc les différentes rencontres qu'il y a pu y avoir, certaines déceptions aussi. C'est pas parce que on est une star qu'on est forcément un mec bien.
Bah, la preuve.
Non, je parle pas de vous. Mais
il parle peut-être de tout.
Non, mais il y a une rencontre et qui pour moi est d'une violence inouïe. C'est la rencontre avec Lerita Mitsuko. Elle est l'anecdote que vous racontez.
Ça s'est mal passé.
Ouais. Incroyable. Ouais, ouais. C'est d'une violence inouïe. Vous nous racontez.
Ben, je croise Fred dans un magasin qui me dit on revient d'Essaouira et là-bas on m'a parlé de toi. Apparemment, t'aimes beaucoup cette ville, t'y vas souvent. Je lui dis ouais, c'est génial là-bas.
Et vous êtes même à l'origine du festival
qui porte son nom. Ouais. Et puis Fred, je lui laisse son numéro dans le magasin, et il me rappelle, il me dit j'ai un projet, on va aller enregistrer notre prochain album à Essaouira, et on aimerait bien que tu fasses les guitares. Ah bah super, jusque là tout va bien.
On est à quel moment de votre carrière? On est avant, après, téléphone, pendant?
On est avant Elle et Louis. On est après D'accord. téléphone.
Ok.
Avant Elle et Louis, ouais c'est ça. Et ils me disent viens ramène-toi, on a loué une grande maison et t'auras une piole dedans et on fait notre studio dedans. Donc j'arrive avec mon ordi, mes enceintes et deux trois micros et des guitares évidemment. Et je me mets dans une chambre tranquille et pendant que eux attendaient Tony Visconti, le producteur que j'avais hâte de rencontrer.
Producteur de Bowie entre autres.
Et pendant qu'il l'attendait, il me disait non, on va pas travailler encore. On attend histoire de faire tout d'un coup quand il sera là. Bon, ben, je m'ennuie un peu, donc je travaille sur mon album. Et à ce moment-là, Catherine et Fred viennent me voir. Alors ça avance ton album, tu fais écouter. Je dis ouais, c'est des maquettes, j'en suis à peine là. Et ils écoutent. Et puis le soir au dîner, Catherine me dit bon, on a réfléchi avec Fred et je vais faire son manager en fait. Et on aimerait bien, Fred aimerait bien produire ton album. Ah, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'attendais Tony Visconti pour lui proposer de le faire. J'ai dit, tu me connais, je dis rarement non, je dis ok, on essaye quoi.
C'est vrai en plus.
Et donc,
c'est vrai que tu dis pas non.
Vous pouvez me prêter 20 000 balles.
On essaye.
Demandez à Nagui. C'est Nagui, mon manager. Et donc, on commence à transférer quelques chansons, une chanson de mon ordi sur leur magnéto. Ils commencent à bosser dessus et entre le manager et Fred, ils s'engueulent et au bout de un jour ou deux jours, quoi. Ils étaient toujours pas d'accord sur le son de Grosse Caisse. Et c'est tout ce
que... Sur
le son de Grosse Caisse.
C'est-à-dire...
Sans écouter le reste. C'est d'abord la Grosse Caisse. Bon. En plus, c'était une machine, une boîte à rythme. Et donc... Et le soir de ça, Catherine, qui était le manager de Fred, en fait, en cette occasion, me dit... ok, tu vas... Eh ben Fred va produire ton album et t'as une maison de disque? Non, j'ai pas encore de maison de disque. Et j'étais entre deux. Et ça va te coûter 700 balles par jour. J'avais vu les deux premiers jours qui venaient de se passer sur une grosse caisse. Je dis putain, je vais être ruiné quoi. J'ai dit non, évidemment, je dis j'en vois pas chier quoi. Je dis non, je pense je suis pas prêt. De toute façon, j'en suis aux maquettes. Et à ce moment-là, ils me disent « Ouais, mais nous, quand on est entré pour faire No Comprendo, notre premier album, on en était à ce stade, on n'avait rien, on est rentré en studio, on l'a fait en 15 jours. » Et, et laissez-moi réfléchir. Il y a un pote qui arrive le lendemain, il vient me voir, il venait en vacances à Essaouira, il vient me voir, il me dit « Putain, t'as une sale gueule. » Je dis « Ben, écoute, ça se passe bizarrement. »
Pardon, Louis, c'est pas, c'est, moi, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué. C'est quand il vous a dit, on est neuf, tu es seul, faut partager, on alterne les frais. Ouais. Il y a un jour, on va t'inviter, et puis l'autre jour, tu vas nous inviter, nous, les neuf.
C'est ça,
Et là, d'un coup, vous vous retrouvez à dépenser 5000, euros.
Non, quand même pas, mais.
Bah, c'est ce qui est écrit dans le livre, en tout cas. Il y a ce chiffre de 5000 que j'ai trouvé extrêmement violent, en disant, on partageait, et je faisais les courses, et je nourrissais 9 personnes de l'autre côté pour, de l'autre côté, être invité. Et donc, il y a eu une espèce de violence, puisque dès que l'argent rentre dans une discussion de potes, c'est là où ça devient violent. Et ça s'est tellement mal passé. C'est-à-dire qu'à
la fin,
vous n'êtes même plus adressé la parole.
Ouais, ouais, il ne voulait plus me parler. Quand mon pote m'a dit, mais arrête, laisse-les tomber, barre-toi. J'ai dit, bon, écoutez, je me casse, je ne me sens pas bien. Et oui, vous voyez ma gueule, regardez, j'étais souriant en arrivant, là je suis
et ça ouira en plus.
Miné, ouais, c'est con. Et donc, bon, on s'est pas engueulé, mais
c'est marrant parce que hein, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça beaucoup plus violent que quand vous le racontez, où finalement vous voulez pas mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que c'est là vous cherchez pas la polémique.
Mais on sent non, que mais c'est parce que
le recul, je peux comprendre parce que en le dernier jour, il y a leur manageuse qui arrive, la vraie manageuse, qui me dit, mais pourquoi ils ont discuté avec toi? C'est pas Catherine, c'est moi la manageuse. Ils ont fait n'importe quoi, excuse, et t'en vas pas. Je dis, non, c'est trop tard, je me barre.
Mais, il y a les courses.
Et puis, c'est vrai que je comprends que ils étaient, comme on dit, en décroche des roues.
D'accord.
Et ça te met dans un état de merde, je peux vous le dire.
Ça, c'est un coup de fil que vous avez reçu après le bouquin, justement.
Non, non.
Pas de coup de fil
non,
de non. Catherine Ringer.
Non, pas du tout.
Elle a peut-être pas lu.
Bah, peut-être elle a pas lu encore.
Bah, sauver les arbres.
J'attends.
Jolie petite histoire. C'est au Cherche Midi, signé Louis Bertignac. Et voici Jérémy Crédville.
Ah ouais. Là-bas. Là.
Allez, file. Cette course. Ouais, c'est bien. Ah, t'es sportif.
Donc ça va, vous ?
Oui, ça va bien. Je sais pas si on t'entend bien, mais.
On va ouvrir ton micro,
ouais, ça sera mieux peut-être. Voilà.
Personne n'était prévenu. Non, parce que moi, je joue à Toulouse. Il y a quelques temps, dans cette émission, on a reçu Alain Chamfort et j'avais fait un mash-up avec ses chansons. Aujourd'hui, je vous propose de faire la même chose avec Louis Bertignac. Alors, je veux pas vous mettre la pression, Louis, mais Alain Chamfort avait trouvé ça excellent. pour présenter un rocker, qui de mieux que le mythique rédacteur en chef de Rock and Folk, Philippe Manœuvre.
Alors, Louis Bertignac, on le sait, guitariste de malade avec sa Gibson SG Junior de 1974 achetée à Londres, auteur et compositeur de Cendrillon, du génie, une chanson qu'on connaît par cœur, on se la réécoute pour le plaisir, top à la régie. Un classique. Voilà, là vous faisiez les cœurs apparemment. Voilà, c'est super, on peut écouter jusqu'au bout non plus.
Bah non.
Louis Bertignac, vous lui donnez de l'hélium, ça part en tube. Alors, vous ne le saviez pas, mais à la base, Cendrillon, donc dédié à Romy Schneider qu'on embrasse, devait être chanté par Charles Aznavour. Et ça donnait ça, top à la régie.
Né. Cendrillon. C'est parti. Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants et son bel amant. Mais le prince charmant la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part. Jolie petite histoire.
Bon, alors ça, forcément, c'est moins rock, c'est plus plan-plan, c'est plus plaintif, à la limite du blues. D'ailleurs, à ce sujet, Jonas avait écrit ces idées-là de joueur de blues. On l'écoute, et top à la régie.
Allez, c'est parti. Bébé, faudrait rentrer, tu vois, je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Ouais. Des heures et des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander où tu peux vivre. ses idées. Là, je suis pas si fort que tu crois. Non.
Ok. Yeah. Bertignac, c'est aussi et avant tout, ça te fait plaisir à Gauguin, l'homme derrière Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Alors rien de bien festif, sauf si c'est Patrick Sébastien qui la chante. Et top à la régie.
Allez, c'est super. Morgane, Leïla, Morgane, Leïla, Morgane, Florence, montrez votre chouch, montrez votre cul, des petits plumes, on y va. Allez.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en fait les manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, as-tu joué encore? C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors que tu m'aimais encore? Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Quelqu'un qui m'a dit Eva, que tu m'aimais encore.
Allez, bonne émission, les amis.
Bonne émission.
Quel génie celui-là.
Oh là, c'est énorme. Jérémy, franchement, qui sera le 30 décembre à l'Olympia.
Voilà, Louis, arranger cette chanson, cette version-là.
Justement, ma neuf, je le vois la semaine prochaine.
Alors, le problème, c'est que d'abord, vous partez des musiques. C'est-à-dire que là, il vous a juste enlevé toutes vos musiques. Votre savoir-faire, c'est d'abord la musique. Vous le dites d'ailleurs. Les galères arrivent au moment de trouver des paroles sur les
chansons. Oui, en général, ouais. Mais la preuve, elles ne sont pas si mal, puisqu'on peut les
mettre
sur
une
autre musique.
Et puis, alors, côté musique, vous avez un autre gros problème, très gros problème. J'ai l'impression que c'est un problème à vie. Vous ne savez pas ce que vous faites de vos guitares, ou vous les faites voler, vos guitares.
Ah ouais? Non, c'est arrivé, mais depuis je fais très gaffe.
Tu parles?
Non, mais c'est
premier vrai. Premier truc que vous avez fait là en arrivant ce matin.
Ouais, bon, c'est... j'ai oublié de fermer là. Non, mais rien du tout.
Si,
vous avez. Mais non, mais faut pas le dire.
Hein. Bah si, parce que c'est fermé que.
Mais si c'est fermé, on sait jamais.
Non, mais d'accord. Enfin, le premier truc que vous avez dit, c'est. J'ai laissé ma voiture ouverte, il y a la guitare dedans. C'est quand même dingue.
C'est vrai, c'est con. C'est con.
Et il est marqué en plus.
Non, mais parce que.
Il y a un flocage sur le pare-brise.
J'ai mis beaucoup de temps à venir ici et. Et j'ai pas pensé à ça, j'étais à la bourre et j'ai
non mais vous laissez vos guitares sur les quais de gare, vous...
C'est arrivé, ouais, ouais.
C'est bien, les gens qui font ça avec des livres, pour que ça se partage.
Une guitare, c'est plus chiant.
Ouais. Moi, je fais ça avec mon fils.
Pour que ça se partage.
La Belgique.
Oh non. La musique dans la vie de Louis Bertignac, on va partir dans les années... Alors, il faut préciser que, par exemple, que Laurent Djaoui, écrivain journaliste, sera notre invité tout à l'heure, parce que vous parlez aussi du château d'Hérouville. Ouais. Et justement, lui raconte ce château dans un livre, et tout ce qui a pu s'y passer, son côté hanté, parce que vous ressentez des ondes, y compris quand vous allez dans les studios de Jimi Hendrix, il se passe des choses.
Ouais, mais c'est une bonne hante. Enfin, je veux dire...
Un bon fantôme.
J'ai eu des bons fantômes de studio de Jimi, Electric Teddy, mais à propos du château d'Hérouville, je ne savais pas, mais j'ai lu ça tout à l'heure, le titre, et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il soit hanté.
Hérouville, le château hanté du rock, ouais.
J'y ai vécu des trucs très étranges.
Eh ben, on en parlera tout à l'heure, c'est tout publié son livre aux éditions.
C'était la drogue, ça.
Non, pas d'apparition, mais des trucs bizarres.
Bah, Higelin, c'est
raconterai.
Une forme. C'est
pas un fantôme.
Non, mais c'est une apparition, tout d'un coup, dans une vie.
Oui, ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas rencontré Hérouville. Aussi, la première fois que j'ai vu, c'était là.
Oui, dans le bouquin, on racontait
ça. C'est pour ça. 68-69, Louis Bertignac, vous écoutiez Gimme Shelter. Cette choriste incroyable. D'ailleurs, vous donnez son nom, elle s'appelle Chris...
Mary Clayton.
Mary Clayton. Mais
d'ailleurs, je vous conseille à tous voir le doc là, sur les choristes, qui s'appelle 20 Feet from Stardom.
Exactement.
C'est passé sur M6, je crois.
D'abord, il y a un casting.
Ça se trouve.
Les Stones, les Beatles, Springsteen, enfin, il y a un casting de ouf en termes de stars.
Tout le monde...
Mais surtout, tout est concentré sur les choristes.
Les choristes de ces gens-là, qui ont vraiment changé la gueule du rock'n'roll à ce moment-là, Joe Cocker, Bowie, tout ça, et qui n'ont jamais été connus. qui n'ont jamais été célèbres.
Et qui sont toujours restés derrière. Et d'ailleurs, sur cette chanson, Gimme Shelter, Jagger le raconte, ils ont commencé à mettre, à faire le morceau et à mettre leur voix. Puis ils ont dit au choriste, allez-y, doublez ma voix, parce que c'est ce qui se passe. Elle est en permanence derrière lui, ouais, quand il chante. Eux, ils sont allés boire un coup ou manger un morceau. Quand ils sont revenus, ils ont entendu les improvisations qu'elle avait faites, mais qui étaient pas faite pour être mixée, qu'elle s'était juste amusée, ouais, et finalement le
et
morceau...
Ils ont gardé ce passage, bah, où elle est toute seule, et c'est fabuleux,
c'est ce alors qu'elle morceau, ouais,
elle sortait du lit, elle est venue en pyjama aussi.
Et voilà, 68-69, je sais pas d'où vous sortiez, Louis, mais en tout cas, il y a deux bombes atomiques dans votre vie, vous avez saigné les Beatles et les Stones, les albums, toutes les musiques, dès que ça sortait, vous étiez collé à ça.
Ben ouais.
C'était ça l'occupation principale à cet âge-là, vous aviez quoi, 14-15 ans?
Ouais, c'est ça. 69, 15 ans.
Très bon élève, vous le racontez dans
oui,
le bouquin.
Jusque
un très
là,
très bon
ouais,
élève, vos parents vous rêvaient médecin, avocat, universitaire, un truc.
Ouais.
De diplôme,
pas
de
musicien,
diplôme,
quoi.
C'est ça.
Voilà, pas musicien.
Ouais, ouais, non, j'étais bon en classe, j'étais très très bon. Et puis, voilà, je suis tombé sur ces choses-là, quelques albums incroyables qui m'ont bouleversé la vie et qui m'ont rendu vraiment accro à la musique. Et
pourquoi la guitare alors? Parce que vous dites dans le livre c'était facile à trimballer, mais c'est pas la
Non, il n'y a pas que ça aussi. En fait, à l'âge de 12 ans, c'est peut-être pareil aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait de faire un peu de musique à ses enfants, en dehors de l'école.
Oui.
Donc, école normale, ma sœur dit piano, et moi, si j'ai dit guitare, c'est grâce à James Bond. Parce que mon oncle,
ouais, c'est ça.
Mais ouais,
ah, exact.
Juste le riff. Je trouvais ça génial.
Qui est pas un riff de John Barry d'ailleurs. Lui, il a fait les arrangements, mais c'est pas lui qui avait trouvé ce riff de guitare. Non.
Mais j'adorais ce riff. Ouais. Et j'adorais aussi me prendre pour un agent secret, etc. J'avais 10 ans. Mon oncle nous emmène voir le premier James Bond contre Dr. No. À la sortie de ça, j'avais cette guitare dans les oreilles et j'avais qu'une envie, c'était cogner les cousins avec qui j'étais venu.
En 75, c'est la rencontre avec Jean-Louis Aubert. À ce moment-là, vous écoutiez.
Et cette rencontre, Louis, avec Jean-Louis, elle est racontée dans le bouquin un peu comme une scène fondatrice de l'éducation sentimentale, quoi. Quand Frédéric Moreau est là sur le bateau et qu'il l'aperçoit et ça y est, sa vie est complètement foutue. Et en fait, c'est un peu ça avec Jean-Louis.
Je rencontrais beaucoup de musiciens à l'époque parce que il y avait que ça qui m'excitait, de rencontrer des musiciens et jouer avec eux.
Et de faire un groupe, chaque fois c'est...
Après, je rêvais de faire un groupe.
Tu veux pas qu'on fasse un groupe? Non, mais chaque fois que vous croisez quelqu'un, c'est... tu veux pas faire un groupe?
Ouais, j'avais envie, que je connaissais Stones et Beatles, j'avais envie de faire pareil. Mais j'étais nul. Et bon, je rencontrais que des musiciens assez mauvais à l'époque, évidemment. On avait 15 ans, 16 ans. Et là, je rencontre Jean-Louis, et il se passe un peu la même chose qu'avec les autres, mais quelque chose en plus. Okay. Il avait une super dégaine. Il me faisait penser évidemment un peu à Jagger, avec sa grande bouche, mais il avait les cheveux raides... Il avait une super dégaine entre... Voilà, ça me fait penser au chanteur de Blackberry Smoke aujourd'hui.
Ouais.
C'est une histoire d'un coup de foudre, parce que quand vous le racontez, tout d'un coup, le temps disparaît. Et ça, c'est ce qui arrive quand on tombe follement amoureux de quelqu'un.
On peut pas dire que c'était sexuel, hein,
mais peu importe.
Oui, non, c'est vrai que.
Non, pardon.
Et puis il y a quelque chose.
Dans le livre, vous racontez que c'est d'abord un copain qui vous dit je connais quelqu'un qui est dans un autre bahut et vous entendez très bien. Donc il y avait.
Non, mais c'est quand.
Et lui, il lui parlait de moi dans l'autre bahut.
Voilà. Quand vous vous retrouvez à jouer ensemble pendant plus de 12 heures, je crois, dans un magasin de musique qui est pas loin du lycée.
Paul Becher.
Ouais. C'est le club de la guitare, dans le 7e, quoi.
Tout d'un coup, le temps n'existe plus.
Oui, c'est vrai qu'on a joué des heures et des heures. Mais comme quand on joue de la musique, le temps n'existe plus, c'est ça qui est magique avec la musique. Et donc, on joue, on parle pas beaucoup, et il y aurait pu y avoir ce genre de concurrence.
La rivalité,
ouais. Il y avait rivalité, dès que je l'ai croisé, avant de le croiser même, parce que mon pote me dit, un guitariste qui joue presque aussi bien que toi, ça m'a un peu énervé. Et je croise ce mec-là, mais il avait une telle gueule et un tel sourire que la rivalité n'a jamais existé.
Mais il fait craquer Jean-Louis,
il est charmant.
On a envie de le prendre dans les bras, quoi, c'est ça. Ouais.
Et donc, et puis il me dit un truc le soir, après qu'on ait joué une dizaine d'heures, il me dit, moi je veux, je sais pas toi, mais moi je veux être musicien, moi ça va être ma vie ça. Et moi j'étais surpris, parce que je suis pas aussi déterminé comme mec, je suis un poisson... Et j'adorais ça. Mais
et c'est pas un métier à l'époque. On ne dit pas musicien, on peut en vivre.
Ouais, c'est ça. Moi, j'y croyais pas du tout. Ouais. Faut dire autour de moi, lui, oui. Ouais. Lui, il était sûr, il savait pas s'il pourrait en vivre, mais il était déterminé à faire ça. Et ça m'a foutu un coup dans la gueule de voir qu'il y a un mec comme moi, qui a un an de moins en plus, qui me dit, je veux faire ça. Ça va être ça, ma vie. Et du coup, je l'ai un peu suivi, quoi. C'est grâce à lui que je me suis dit, ça va être ça, ma vie.
Et en fait, les regards, les sourires que vous échangez en jouant de la guitare, ça va bien avec le mot harmonie. C'est, on est dans la musique, mais on est dans la complémentarité, on répond au riff de ouais. l'autre, on le suit, on se suit et on s'accorde. Donc c'est vraiment tous ces mots qui servent à définir une amitié collent bien au monde de la musique
ouais,
aussi.
Ouais, tout à fait.
Bah et ça
ouais.
a donné. Parler dans l'Ijiapan. Et cette chanson est née avant Téléphone.
Oui, ouais, elle est née presque un an avant. Il me fait écouter ça. Il me fait écouter sa version de ce truc-là. Et bon, tout de suite, j'ai envie de lui dire oui, mais il faut que ça sonne un peu comme ci, comme ça. Et puis, premier concert, on la joue évidemment parmi d'autres.
Et là, il y a l'idée des noms de groupes, c'est extrêmement drôle de se dire comment on va s'appeler.
Ouais.
Il y a masturbation, il y a le point d'exclamation, il n'y avait pas de titre.
Ouais.
Vous preniez des affiches des autres pour les coller à l'envers et bomber des rendez-vous.
Oui, on n'avait pas prévu d'être un groupe célèbre. Tout ce qu'on voulait déjà, c'était faire
jouer
ce concert-là, ce premier concert, et puis d'autres concerts. Mais bon, au bout de quelques concerts, on s'est aperçu que ça marchait bien, donc il fallait trouver un nom. Pour que les gens aient un nom à mettre sur ce qu'ils entendaient.
Du coup, comment on s'appelle ? Téléphone.
Non, ouais. Jean-Louis me dit...
Non, c'est pas la vanne comment on s'appelle, ouais, ouais. Téléphone, mais parce qu'il y avait déjà décroche ton téléphone.
À la fin de ce morceau, il y avait ça. Il ouais. ouais. y avait un autre morceau même, Téléphone, où ça parlait du téléphone. Et c'est Jean-Louis qui nous dit, écoutez, Téléphone, c'est un super nom. On dit, ouais, c'est bizarre, c'est un objet, c'est pas rock'n'roll, ça. À côté des Rolling Stones...
Ou à côté des noms de groupes qui n'en finissaient pas, c'est l'époque des Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band,
ouais, Creedence Clearwater Revival, des trucs comme ça. Très très vite on a compris, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, tu regardes dans la rue, il n'y avait que des cabines téléphoniques avec écrit « téléphone ». Dit, ça va nous faire une promo sans rien faire. Et on a accepté tout de suite.
Et c'est vrai, la vanne, quand vous avez cherché à. Vous vous êtes retrouvés tous les trois pour trouver les insus, vous avez dit on peut pas refaire Téléphone parce qu'il n'y a pas Corinne, donc le nom ne va pas aller puisque les quatre vous êtes propriétaires du nom Téléphone.
Ouais, mais il y avait avant tout la volonté de ne pas dire que c'était nous. Parce qu'on avait prévu de faire un tout petit concert. Au point éphémère
Cavalier, en passant ouais.
ouais pour
qui était dingue d'ailleurs
ouais c'était
c'était ouf
c'était ouf et on voulait pas qu'on sache que c'était nous sinon ça aurait été l'émeute ouais. donc on
mais
a on choisi
tous,
un nom
mais on savait tous que c'était vous
ouais parce que c'est la faute de Richard qui avait peur que ça soit pas plein
sans blaguer
ouais ouais nous on avait dit sur nos pages Facebook Jean-Louis et moi et Richard on avait mis il y a un petit groupe intéressant qui va jouer ce jour-là, au point éphémère. Et la veille du truc, ou deux jours avant le truc, Richard se dit, mais si ça se trouve, si ça va pas être plein, ce serait con. Donc il en parle un peu plus sérieusement, ce qui fait qu'il y a un journaliste, je sais plus lequel, qui s'est penché sur la question des insus, qui a vu que Jean-Louis venait de déposer ce nom à l'INPI. Et,
ah, là, ouais.
et là, oui. il a dévoilé ouais. le truc. Et là, évidemment, c'était.
Mais donc, la vanne de dire, maintenant, on parle plus de téléphone, on parle de portable. Et donc, la vanne de portable est devenue insupportable. Donc, les insus?
Oui, mais c'était surtout les insus. Parce qu'on faisait ça à l'insu.
D'accord, des autres. Quoi. Très bien.
Et portable, Jean-Louis a rajouté ça. Mais c'était les insus, qu'on a toujours appelé les insus.
Laurent Jaoui nous a rejoint. Bonjour Laurent.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste. Je l'ai dit. Vous avez publié Hérouville, le château hanté du rock aux éditions Castor Astral. Et c'est ce que disait Louis. Vous avez également publié Chronique d'un rendez-vous manqué aux éditions Autour du Livre. Mais Jean-Louis disait tout à l'heure, il se passe un truc il se passait des choses dans ce château d'Hérouville.
Ah oui, clairement. Alors certains parlent de
d'un fantôme. Je sais pas jusqu'où il faut aller, mais en tout cas, il était habité. Il y avait quelque chose qui, évidemment, incarnait ce château avec des manifestations paranormales, et tous ceux qui y sont passés pendant 15 ans, de 70 à 85, ont vécu des phénomènes qu'ils n'ont pas revécu ensuite. Et Louis en parle lui-même dans le bouquin, des choses toujours étranges. Est-ce que c'est dû à l'imagination causée par la création et peut-être aussi quelques substances, ou est-ce que c'est vraiment parce que cet endroit était tout simplement habité?
En tout cas, l'originalité de ce studio, c'est que c'était un studio dans lequel on allait en résidence, c'est-à-dire qu'on y dormait, on y mangeait, on y jouait, donc on y vivait. C'est là peut-être la différence avec on va dans un studio et on rentre chez soi.
L'idée de génie, elle revient au créateur, Michel Magne, qui était un musicien exceptionnel, un spécialiste de musique contemporaine, et qui a eu l'idée au début des années 70, il vivait dans ce château à titre personnel, avec son épouse, d'en faire une résidence artistique et d'accueillir des groupes internationaux, et très vite sont venus Elton John, noms, ouais, Pink Floyd, David Bowie, qui est venu faire un album de reprise, et il vivait sur place. Il dormait là, il mangeait là, très bien, il profitait de l'art de vivre à la française, il y avait un court de tennis, une piscine, on pouvait faire des fêtes monumentales, un grand jardin, des fêtes monumentales à l'abri des regards, dans un village, dans le Val d'Oise, où les habitants savaient à peine qui étaient tous ces gens-là. C'était à 40 km de Paris, mais ils bénéficiaient d'une tranquillité totale, et à l'abri de ces murs, derrière cette grille, se sont enregistrés les plus grands albums de l'histoire du rock, David Bowie, Iggy Pop, les Bee Gees, Jacques Higelin y a carrément vécu, sont venus à tour de rôle enregistrer là-bas, et c'était assez formidable de se replonger dans ces 15 années.
Hanté ou pas hanté alors?
Oh, on peut dire hanté, moi je savais pas cette légende, je viens de l'apprendre en fait. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même passé des trucs étranges, genre la femme du bassiste, au bout de 2-3 jours, elle sortait plus du studio, elle sortait plus de sa chambre, elle voulait plus parler à personne, elle avait recouvert tous les murs de draps blancs.
Elle était collée au plafond.
On peut dire ça. elle était collée quelque part, mais c'est vrai qu'elle avait pris un coup dans le citron.
Cette expression est géniale. Ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu.
Un coup dans le citron,
ça existe ou pas?
Je ne sais pas comment c'est. Est-ce qu'elle est redevenue normale après qu'on.
Souhaitons-le.
Quitte le studio.
Est-ce que l'endroit où on compose, où on écrit, a vraiment de l'influence sur le résultat? Le lieu a de l'influence?
Non, je ne crois pas. Sinon, j'irais toujours au même endroit pour composer des super trucs.
Et les agrumes.
Et puis nous, en plus, il faudrait qu'on change de studio de temps en temps pour faire une bonne émission, quoi.
Bah, la prochaine fois.
C'est peut-être un conseil à suivre.
La semaine prochaine. Parlons
du rock, c'est aussi votre spécialité. Est-ce qu'il y a des héritiers, voire une nouvelle musique qui redébarque en France dans le sens des fils de téléphone, entre guillemets?
Ça n'a jamais arrêté. En fait, avant téléphone, il y avait des choses, ça fonctionnait pas, il y avait des groupes de rock français progressifs, il y avait Gong, Magma, Amson. Ange, Gana Fool, etc.
Triangle,
ça a pas marché, les premiers, les pionniers.
Magma, Triangle.
Ouais, mais ça a pas marché de manière, ça a pas marché de manière aussi monumentale et massive que Téléphone a pu le faire. Ça a été des explorateurs, ils ont ouvert la voie. Bijou, Star Shooter, Dogs étaient des formidables variations, des formidables challengers. Il y avait Trust qui était pas loin. Et puis ensuite, quand Téléphone a décidé de passer à autre chose, ça a tout le temps été poursuivi. Il y a eu Noir Désir, il y a eu le rock alternatif, et il y a aujourd'hui encore d'autres choses. Il y a Eiffel, il y a Radio Elvis, il y a Feu Chatterton. Il y a un milliard de groupes aujourd'hui qui continuent. Il faut surtout pas croire que le rock en France, c'est quelque chose d'exsangue. C'est difficile, c'est compliqué pour les musiciens, mais Louis le raconte très bien dans son bouquin. Il prenait sa 4L, il mettait du matériel dans le coffre, il traversait la France, il allait faire un concert devant 40 personnes, il transmettait des émotions, ils étaient heureux. Ça existe encore
il
aujourd'hui.
Il a même découvert des salles dans lesquelles il rentrait où lui ne pouvait pas payer le ticket pour rentrer voir par téléphone, tellement il ne gagnait pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Le studio Dérouvé a fermé puis réouvert?
Il a fermé pendant 30 ans et depuis 2015-2016, trois repreneurs essayent de le faire repartir. C'est compliqué, il y a des concerts, il y a des captations, mais il n'est plus un studio résidentiel. Malheureusement, le Covid est venu là-dessus compliquer la situation. Mais ils essayent à tout prix de relancer les repreneurs d'aujourd'hui. Et c'est formidable que ce lieu qui a périclité pendant 30 ans, c'est devenu un lieu à l'abandon. Aujourd'hui, renaissent de ses cendres.
Le rock français, donc, 77-83, c'est votre livre aux éditions Autour du Livre, justement, chronique d'un rendez-vous manqué. Et sinon, Hérouville, le château hanté du rock aux éditions Castor Astral. Merci beaucoup, Laurent Djaoui, d'être venu dans cette émission. Tanguy, de quoi vas-tu parler dans la dernière demi-heure?
Bien, je vais vous parler des chats, ils nous rendent tellement heureux. Il est démontré scientifiquement que regarder des vidéos de chats rend heureux.
C'est vrai. Voilà. À suivre dans la dernière demi-heure, encore Louis Bertignac jusqu'à midi et demi, mais également Leïla Kadoumoudadi, Morgane Cadignan, Jérémy Crédit et Florence Mendès. La bande originale avec Leïla Kadoumoudadi, Morgane Cadignan, Florence Mendès, Jérémy Crédit, Tanguy Bassureau et notre invité Louis Bertignac.
Bonjour.
Louis Bertignac est notre invité avec...
Trop cher, trop gros, la vie n'a pas de prix.
Pas sous ces morceaux.
Je suis pas dedans.
Je sais. Tu vas comprendre pourquoi je passe sous ces morceaux.
Bah, je suis dedans.
Là, dedans.
Si je passe sous ces morceaux, c'est pour rappeler que c'est Richard Colinga qui est à la batterie. C'est pour ça que.
ouais, hélas.
Voilà, même sur Juste une vision, c'était.
C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Hein. Si vous envoyez un texto tout de suite, il parlera plus de Richard.
Non, mais Richie, on l'embrasse évidemment. Il est présent dans ce livre, d'autant plus présent d'ailleurs qu'on sent qu'il est le lien, le ciment un tout petit peu
c'est
aussi.
C'est le mec stable en fait, Richard Colinga.
C'est le mec joyeux qui a jamais de problème.
C'est le mec joyeux, stable, qui a l'air arrangeant en plus.
Ouais, ouais.
C'est le vrai pote, quoi. C'est celui qui, quand. S'il y a un clash entre Jean-Louis et vous, il va aller voir l'un puis l'autre en disant allez, soyez pas con quoi.
Même pas, il va se casser, il va attendre que ça se calme.
Mais il y a des anniversaires, il y a des rencontres, il y a aussi cette vie privée, cette vie quotidienne, pas forcément musicale, qui est un lien. Vous êtes, ouais. Et d'ailleurs, vous finissez le livre en le disant, c'est quoi qu'il arrive, ce sont des frangins, des potes à vie quoi.
Ouais, bien sûr, on est des potes à vie, c'est sûr. Et avec Richard, c'est assez intense parce qu'il me lâche jamais. Tous les jours, je reçois un texto ou des trucs, alors que ça soit...
Une vanne, il envoie beaucoup de vannes.
Beaucoup aussi. De vannes, ouais. C'est souvent des insultes.
Mais au niveau des insultes,
je sais lui répondre.
Il envoie des extraits musicaux aussi. Il aime partager.
Il est saoulant. Ouais,
Alors vous dites, je ne sais pas s'il a...
Je sais qu'il écoute, donc...
Je ne sais pas s'il a lu le livre, et comment il l'a vécu, mais vous dites qu'à un moment, heureusement que Corinne, avec sa basse, gardait le tempo, parce que le batteur Richard, lui, il ne le gardait pas toujours.
C'est-à-dire qu'à un moment, plusieurs moments dans le concert, j'entends la batterie qui se décale, quoi, en avant ou en arrière, mais ça ne va plus, et je me retourne, il est en train de faire le con avec ses baguettes. Il lance les baguettes, alors évidemment, il essaye de la rechoper, donc il prend un peu de retard avec le rythme. Et donc, comme il est très réactif,
c'est un spectacle.
Il accélère ensuite.
Ah oui, pour rattraper le retard qu'il a pris.
Oui, mais il accélère trop. Donc voilà. Quoi.
Donc il jette une baguette. L'histoire s'en fout.
Mais ça reste l'un des meilleurs batteurs que l'on ait, évidemment.
Ouais, il n'y a qu'à écouter le break dans Digiphone, d'ailleurs, pour s'en rendre compte. Il voit ce que je veux dire.
Attends, il y a un message là. C'est quoi le message,
Sur la première version Digiphone. C'est au moment du break à la toute fin.
D'accord, on va se caler dessus. Ok, on va aller chercher.
Le break à la toute fin, quand ça s'arrête, il repart avec sa batterie. Si vous comptez, c'est pas du tout dans le truc.
C'est moche de faire ça, Louis.
Il n'avait qu'à pas envoyer son texto.
Ouais.
Richard, tu auras un droit de réponse
en fait,
si tu veux.
Il y a un autre bouquin qui peut sortir avec tout ce que vous avez comme dossier les uns sur les autres.
Ah oui, on s'envoie. J'ai de quoi remplir avec tous les SMS qu'on s'est envoyés avec Richard. Il y a de quoi remplir un bouquin.
Mais ce qui est sûr, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Jean-Louis pourrait écrire un livre en racontant sa vision des choses.
Bien
Richard
sûr.
Aussi sa vision des choses.
Ça ferait et ça trois bouquins différents.
Et ça
bien
ferait
sûr.
Une vie en 3D. Ça donnerait la vraie vie. Là, c'est vraiment votre perception, y compris humainement, dans les histoires d'amour. Vous évoquez Carla Bruni. On ne va pas rentrer dans les détails de la vie privée. Ceux qui ont envie de se jeter sur le livre pour voir découvrir la rencontre, la manière avec laquelle elle a voulu venir vous... parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'elle n'était pas la Carla Bruni que l'on connaît, mais vous êtes d'abord connue quand elle était toute gamine. Elle est venue avec une copine vous attendre en bas de chez vous.
Ouais, c'est ça. Et puis...
Une fan.
Une fan, ouais, que... mais elles étaient rarement aussi jolies, les fans. Et donc, elle vient sonner à la porte. Les autres.
Il leur manque toute une dent, moi.
Après, quand elle te quitte, tu veux dire. Oh, ça va.
Elle vient de sonner à la porte en bas de chez moi, donc je réponds, elles étaient belles toutes les deux, donc je les invite à boire un verre. Et au bout de 10 minutes, Carla me fait vraiment craquer, donc je l'invite à voir ma chambre. Mais juste, je l'embrasse, quoi. Et en rentrant, en descendant à la cuisine, où la copine nous attendait, on descend un peu bras dessus. Et la copine dit « Ah mais non, mais c'était moi qui étais censé sortir avec toi. »
C'est fou. Ah ouais, c'était mise d'accord avant.
Ouais.
On ne connaîtra jamais le nom de l'autre copine.
Carole.
qui balance tout. Louis Bertignac, joli.
Il se souvient très bien.
Petite hein, histoire au Cherche Midi avec la plume également de Guy Carlier. Voici la plume de Tanguy Passion. Ah ouais.
Bon les amis, la France est divisée, les trois quarts du pays disent pain au chocolat, le dernier quart chocolatine. Sur la route, il y a les possesseurs de SUV qui ont soit un micro-pénis, soit une grande famille. Bon, et les autres. Niveau électoral, c'est divisé aussi, il y a trois blocs. Les fans de Macron qui aiment le fric, les poils de torse et le centrisme. Les identitaires que Macron va tenter de calmer en nommant ministre des gens au blaze sentant le terroir. Julien de Normandie, Marisol Touraine, si en plus il arrive à convaincre Richard Berry, il aura la moitié de la région Centre-Val-de-Loire. Bon, et la gauche, c'est-à-dire Mélenchon, qui a réussi à s'unir avec tous les autres partis, mais après la présidentielle. Les mecs ont le même sens du timing que le fils d'Anne Hidalgo si à 20h01, un soir d'élection, il disait « Maman, as-tu pensé à mon argent de poche ?» La France, ça a toujours été un pays fracturé, quoi. Marseillais contre Paris, il y a un porteur de doudounes sans manches contre gens habillés normalement. En fait, une chose nous réunit, l'amour des chats. Oui, les chats, ces êtres velus qui H24 dorment, mangent et se lèchent. En voilà des créatures à la vie accomplie. Quand je pense que Manuel Valls se bat pour un siège de député alors qu'il pourrait être roulé en boule à se laper le sexe. Il y a 15 millions de chats en France. 1,1 million rien qu'en Ile-de-France pour seulement 700 000 chiens. Pourquoi? Eh ben parce que le chat, il peut attendre toute la journée à la maison, comme mamie depuis les émissions de Faustine Bollard. En PACA, le chien gagne 700 000 contre 500 000 chats seulement, qui sont considérés comme une minorité. À la SPA, ils sont obligés de rusé, il présente une fiche avec écrit Rex, vous dites je l'adopte, et là il vous refile un chat. Ça fait la même chose avec le CV anonyme quand un raciste lit Sciences Po Bordeaux, il se dit yes, ça sent le candidat à face de craie, il doit être tellement blanc que je suis sûr que ses trois prénoms c'est Léon, et le jour de l'embauche, c'est un noir qui se présente. Hein, l'employeur lui dit vous êtes sûr, vous n'êtes pas au moins un peu métis? Il répond si, mon père est sénégalais, ma mère malienne, hein, tandis que l'employeur donc se pend. 15 millions de chats, c'est énorme. Et là on voit qu'ils ne font pas leur travail. C'est qu'il ne devrait plus y avoir une seule souris. Ah bah oui, quand les sénateurs, qui sont les prédateurs naturels de la salade de museau, déboulent à la cantine du Sénat, dans la minute, il n'y a plus de salade de museau. Et ils ne sont que 348. Enfin, vous imaginez s'il y avait 15 millions de sénateurs. Alors pourquoi je vous parle des chats? Eh bah d'abord parce que je fais ce que je veux. Bon. Mais petit 2, parce que j'ai vu un article du Washington Post disant que selon une étude, regarder des vidéos de chats fait du bien au moral. Alors qu'à pelage semblable, regarder Laurent Delahousse annoncer de mauvaises nouvelles au JT, eh bien nous plombe. Alors une chercheuse américaine, appelons-la Fodel parce que personne n'utilise plus ce nom, a questionné 7000 consommateurs de vidéos de chats sur Internet. Et ceux-ci avaient au niveau de la banane, mais la bio de République Dominicaine de chez Naturalia. Ils sont plus heureux, moins stressés. Et c'est immédiat. Hein. Vous foutez Jean-Yves Le Drian devant une vidéo de chat. Dans la minute, il appelle Patrick Sébastien pour enregistrer à deux une nouvelle version du Gambadou. Poutine, envoyez-lui des chats et des commodes par Amazon. Mettez les chats sur les commodes, faites-les péter la gueule. Il éclate de rire et s'écrit « Je ne vois plus de nazis, je vois des chats. Hein, » Mais vous savez combien de rendez-vous chez Afflelou, il faudrait pour arriver au même résultat. Les chats sont rigolos. On peut leur donner des noms à la con. Exemple, Ravoil, ça fait le chat Ravoil. Voilà. Mais après, on adapte à sa vie. Quoi. Vous êtes musulman, appelez-le l'Akbar, le chat l'Akbar. Vous bossez dans la finance, appelez-le l'ange, chalange. Vous êtes en couple avec Amélie Nothomb, appelez-le va ou bien parce que t'es toute pâle. Chava ou bien parce que t'es toute pâle.
Non.
Hein, voilà. Non, mais vous aimez les ambiances entre mecs, appelez-le bit, le chat bit. Bon, après, il faut juste à ne pas avoir à l'appeler par son nom s'il se barre de la maison parce que des tas de mecs vont sortir des fourrés en disant je suis dispo. Bon. Hein, vous êtes journaliste, appelez-le Beau Arlette, chat Beau Arlette. Voilà, bon, ok, non, je vois que j'ai atteint la limite de l'exercice. Oui. Mais n'empêche qu'avec les noms de chiens, on rit moins. À part l'appeler dent, ça fait le chien dent. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est nul, les chiens. C'est nul. Alors, le chat sur Internet, c'est un succès qui ne se dément pas. Cette semaine, une vidéo de chat sur TikTok, vous voyez, TikTok, a fait 1,5 million de vues en 2 jours. Moi, la vidéo de mes chroniques, en 2 jours, je suis à 40 000. Peut-être que si je me lèche. Ah non, mais voilà, j'essaye, on verra. Je laisse passer le week-end. Écoutez, peut-être que si je vous donne le chiffre lundi, si les vues explosent, à chaque chronique, je me lècherai. Voilà. Donc la vidéo.
T'es prêt à tout?
Oui. La vidéo en 2 mots, une anglaise a un chat qui s'appelle Tofu. Hein, Emrika, moi, a déjà liké la vidéo 1000 fois. Donc Tofu est un chat d'une race sans poils et on le voit en train de prendre son bain. Mais ce sont des bêtes fragiles à cause du manque de poils. Les influenceuses à Dubaï vivent la même galère quand elles prennent leur douche. Hein. Donc la maîtresse de Tofu, appelons-la Tex parce que plus personne n'utilise ce nom, lui a mis un petit bonnet de bain avec des trous pour les oreilles. Hein, comme on a fait à François Bayrou la fois où il est à l'Aqua Boulevard. Alors forcément, bah, c'est trop mignon, quoi. Carton mondial. J'ai vu la vidéo, mais depuis, je suis moi-même heureux et épanoui. Je vis ce genre de période où je pourrais adopter un chat que j'appellerais Louis Aubert, quoi. Le chat Louis Aubert. Voilà. Plein d'œil à Louis Bertignac. Et vive les chats. Adieu.
Merci.
C'est une fin de carrière.
Et Tanguy qui sera ce soir à Guy Pava, il se lèchera certainement.
Et j'y vais.
Louis Bertignac, s'il a joué de la guitare, c'est grâce à ce morceau. Ah, je l'ai pas le morceau. D'accord.
Il est vachement bien.
Mais c'est pas grave.
Il veut pas partir.
Bien, c'est celui de la.
Est-ce que tu peux l'envoyer toi, Alicia, parce que moi, il ne fonctionne pas.
Ah,
ah voilà.
Ah, ouais, ce petit riff.
Ah, sinon je serais pianiste.
Monty Norman, c'est lui qui a...
Ah ouais.
C'est pas John Barry du tout, lui il a repris ce gimmick, il a fait tous les arrangements qui sont autour, mais c'est lui qui a créé le premier ce son. Et puis les références de guitare, elles sont nombreuses dans le livre de Louis Bertignac. Avec non pas le solo, mais les solos, parce qu'il y en a deux,
ouais,
dans Sympathie.
Il y en a un de Richard et un de Taylor.
C'est ça.
Tu vas son live, là il y en a qu'un.
Et puis dans les guitares, vous évoquez évidemment... Alors si je parle de ce morceau-là, c'est parce que vous le faites piquer par Mick Jagger.
Comment dire ? Pas jouer avec ses instrus.
Non !
Ouais.
Bah, l'histoire bon, est enfin, sympa.
Le morceau est de Chuck Berry de toute façon. Mais je faisais le bœuf avec Charlie Watts et Wyman.
Et Bill Wyman, et vous faites la version reggae de Johnny B. Goode.
Ouais. Et ok, alors Jagger, quand il arrive au studio, on lui fait écouter, il dit « Ouais, c'est vachement bien, c'est une bonne idée ». Et un an plus tard, il y a Peter Tosh, qui est produit par Mick Jagger, qui sort Johnny B. Goode en... reggae, comme nous.
Et là, vous dites « Jagger m'a piqué l'idée ».
Bah, j'ai dit « Jagger a eu une bonne idée
». Allez, d'autres idées dans le monde culturel. Leïla Kadour-Boudet.
Ouais, spécial musique, Brad Pitt est à la tête d'un projet culturel en France. De quoi s'agit-il d'après vous ?
Un festival ?
Et ça pourrait plaire à Louis. C'est pas un festival.
Ça peut plaire à Louis ?
Ça pourrait attirer Louis, absolument.
Il y a des filles ?
Il joue pas de guitare.
Je sais pas s'il y a des filles. Brad Pitt, pensez Brad Pitt. Brad Pitt, France, qu'est-ce qui se passe en France pour Brad Pitt ?
C'est le vin. Production
le vin, ouais. Où ça ?
Dans le vin.
Où ça ? Précisément le château ?
Le
château Miraval. Et le château Miraval, c'est quoi ? C'est un studio. Ouais. Absolument. D'accord. C'est un bon studio où se sont croisés Pink Floyd, AC/DC, Muse, Sting, Sade, par exemple. Et il a envie de capitaliser.
Enfin, ils se sont jamais croisés. Parce que sinon, il y aurait pas la place.
Non, oui, d'accord, très bien. Ils ont joué là-bas. Est-ce qu'on peut lui mettre un coup de cymbale vite fait ou pas ? Et je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et l'idée, c'est qu'il veut relancer un peu ses studios pour attirer des stars internationales, mais pas que, pour redorer un petit peu le blason de... Et puis c'est à côté de son vignoble, donc c'est pas mal.
Ouais, ça fait la promo
ça
aussi
fait
du rosé.
Des
ouais.
petits séjours un peu sympathiques pour aller enregistrer éventuellement un album. Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez enregistrer en particulier un titre, un album ? Est-ce qu'il y a des studios qui vous font encore rêver ?
Je crois que je les connais tous.
Alors,
qui me faisait rêver, il y a l'Electric Lady, évidemment, celui de Hendrix.
Jimi Hendrix aux États-Unis, Abbey Road.
Abbey Road, ouais, pour le nom, quoi.
Ouais.
Quoique c'est en plein Londres. Mais
non,
bon.
Mais vous avez jamais enregistré Abbey Road ?
Non, on a mixé un truc, je crois, mais pas enregistré.
Et donc un des studios où vous êtes allé qui est pour vous le summum ?
Un studio pas mal à Miami, mais je sais plus comment il s'appelait. Et mais le mien, j'adore mon studio.
C'est quoi un bon studio pour vous ?
Bah, c'est un studio où on met une batterie dedans,
on enregistre et ça sonne mieux que la batterie toute seule sans les micros, etc.
Et quand on branche la guitare, il n'y a pas le buzz qui
ouais, il y a ça aussi. Ouais.
C'est un peu de la magie, en fait, aussi, un studio.
C'est aussi beaucoup de technique. Ouais. Il faut que le mec qui fait le studio soit excellent.
Autre question, si je vous dis Thomas Dutronc, Jacques Dutronc, Section d'Assaut, Camélia Jordana, Kimber Rose, L'Impératrice,
festival.
Bagarre, Catastrophe, ouais, un festival, c'est l'affiche de quel festival? Vous avez dû y jouer,
c'est
Louis. Non, c'est pas Rock en Seine, c'est un autre festival. Non plus, non plus, non plus, non plus, c'est à la rentrée.
À la rentrée?
Ouais, de septembre. Benjamin Biolay, notamment.
Rock en Seine?
Non plus, non, je continue. Rock en Seine, c'est plutôt fin août.
Hein. Bah oui, bah c'est la rentrée.
Donc, en fait, septembre. Oui, la fête de l'Huma, la fête de l'Huma. Le 9, 10 et 11 septembre, voilà, prenez vos places, l'affiche est très très belle. J'imagine que vous avez joué là-bas.
Oui, bien sûr,
déjà.
Avec téléphone.
C'est
ouais.
ce qu'il raconte dans le livre avec les masques que vous avez portés à l'époque.
Les politiques ont bien essayé de récupérer téléphone à plein de reprises, vous avez été sollicité. Ouais. Comment est-ce que vous avez géré ça dans le groupe?
On s'en est pas trop occupé. Non, on s'en est pas occupé, ça nous intéressait pas. C'est vrai que, surtout la chanson Un autre monde, qui a un sens un peu futuriste et joyeux, a été reprise par beaucoup de... notamment à gauche.
Ouais.
Pas beaucoup à
droite.
Vous
avez interdit l'utilisation de certaines musiques pour des meetings, ça s'est déjà posé?
Ça s'est posé, mais on n'a pas interdit. On se fait de la pub.
Non, par contre, sur la fête de l'Huma, ils avaient mal vécu quand vous étiez arrivé avec des masques d'hommes politiques là-bas.
Ouais.
Ils avaient mal pris.
Pas tout le monde, mais certaines personnes l'avaient mal pris.
Bah, c'est ce que vous racontez dans le livre. Voici Florence Mendez.
Salut tout le monde. Alors, j'ai eu un date hier. C'était nul. Comment vous dire? Dans un film sur Sherlock Holmes, bah le mec, il serait pas Sherlock Holmes, clairement. Pourtant, ça partait bien. A priori, il avait l'air intéressant. Un chouette métier. Il était pianiste. Bah, j'ai eu très vite qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour me jouer le générique de fin sur mon piano à une touche. Mais bon, j'avais la dalle, donc je l'ai ramené chez moi. Et là, une tanasse. Le type, c'était Kylian Mbappé face à la Suisse, incapable de la mettre au fond. Du coup, quand il est parti, bah, je me suis rabattue sur mon vibro. Et là, plus de batterie. Non, plus de batterie. Obligé de me relever pour aller chercher des piles dans le transformeur du petit, vraiment. Mais je crois que le pire, c'est quand il m'a parlé de son date précédent, dont il était déçu. Il m'a dit super chouette et tout, mais sur les photos, elle avait l'air plus mince. Quoi? Mais sérieux, mais les mecs, arrêtez avec ce genre d'injonction de merde sur nos physiques. Nous, les femmes, on est rondes, fripées, poilues, mais comme vos couilles, voilà, heureusement. On est moins fragiles, hein, putain. C'est pas le moment de me parler minceur, hein. Partout dans les magazines, on commence à voir les mots summer body, ça me râpe les ovaires. Partout sur Internet, tu vois des articles type comment avoir un corps parfait pour la plage. Un corps mince et lisse, voilà. Mais quel manque d'imagination. Je me souviens d'un tweet qui disait que si on en croit la nature, le corps parfait pour la plage, il aurait des pinces de homard, une crête coupe-vent et un anus qui repousse le sable. J'en ai de ma claque de cette grossophobie ambiante. D'ailleurs, le terme grossophobe vient de faire son entrée dans le Larousse. C'est bien, même s'il y était déjà depuis longtemps sous le terme générique connard. Grossophobie. Non mais déjà, t'as peur de quoi? Que les grosses, elles te mangent? Et fais pas semblant de t'inquiéter de la santé des meufs quand tout ce que tu souhaites à la tienne, c'est un verre solitaire. Et puis, s'il y a bien une critique de beauté, un critère, pardon, de beauté qui arrête pas de changer, c'est le poids. Tenez, à Willendorf, en Autriche, il y a une statue qui s'appelle la Vénus de Willendorf. Elle est énorme, elle a des ins comme ça, un ventre comme ça, il n'y a rien sur le même fuseau horaire, on dirait moi enceinte, vraiment. Elle date du paléolithique supérieur, et on pense qu'elle représente une déesse ou un idéal féminin. On n'en sait rien, ce qui est sûr, d'accord, c'est que Jean-Michel Néandertal, il s'est pas cassé le cul à traquer une bestiole, la buter, la dépiauter, tailler ses os pour en faire un marteau, un burin, trouver du calcaire, sculpter sa statuette pour aller la montrer à son pote et dire « t'as vu, elle est grosse ». Non, hein, d'accord. Bon, allez, je le dis, en tout cas, voilà, mon summer body, c'est comme Xavier Dupont de Ligonnès, on n'est pas prêt de le revoir.
Bah merci Florence Mendez. Oh, elle n'est pas énervée.
Pas du tout, je reste calme.
Et Florence, tu seras calme ce soir et tous les jeudis au Métropole à Paris et les 20 et 21 mai à Marseille.
Louis Bertignac, jolie petite histoire au Cherche Midi où vous parlez de l'avant-téléphone, du pendant-téléphone, de l'après-téléphone avec les visiteurs, les albums que vous avez notamment fait pour Joyce, Jonathan, pour Carla, Bruni. Mais également, on l'a pas évoqué, il y a l'aventure de The Voice qui vient aussi se mêler à la oui, en formation des insus, des histoires d'amour avec vos enfants que vous aimez, que vous chérissez, qui ont été déterminants et qui le restent. Et Laetitia, qui est la femme de votre vie, comme vous le dites tendrement à la fin du livre. Mais il n'y a pas l'après.
Je ne peux pas parler de l'après.
Si, les projets, les envies, justement, comme le disait Leïla tout à l'heure, de quoi avez-vous envie pour les 10 ans qui viennent?
Eh ben, j'ai un album qui va sortir en 2023,
bah
début
voilà.
2023. Et puis les envies, j'y ai pas pensé. Moi, ce qui m'irait, c'est que ça continue comme ça.
Ok, c'est dans ce qu'on vous souhaite.
Voilà, quoi, voilà.
Et surtout une bonne santé, voilà, en plus, en plus de tout ça. Des excuses à présenter, Morgane Cadignan.
Oui, bien sûr. Désolé pour Charles Aznavour, Michel Jonas, Patrick Sébastien et tous les chanteurs morts qui ont été sublimement massacrés par Jérémy Crédville. Donc, le pire est à venir, les amis, la semaine prochaine nous a promis un mash-up de Guy Béard et Jennifer Lopez. Ah ouais. On a hâte. Désolé pour nos auditeurs un petit peu hygiénistes qui ont trouvé qu'on a trop parlé de sexe, de drogue et de rock'n'roll tout au long de l'émission. Alors, les mecs, je vous préviens, demain, on revient à une vie un peu moins punk avec Jean-François Piège pour son livre « Zéro viande, zéro poisson, fiesta ». Et enfin, désolé pour les Rolling Stones, les Rita Mitsouko, les Beatles, Mozart, bref, toutes les stars qui ont rencontré Louis Bertignac et avec qui ça s'est mal passé. Franchement, on l'a bien vu ce matin, c'est pas étonnant. Hein. Bertignac, c'est vraiment le prototype du sale type, arrogant et prétentieux. En plus, il a laissé des miettes de chips partout dans le studio.
Ça va.
Merci Louis Bertignac. Il y a des tonnes d'anecdotes que l'on n'a pas évoquées non plus dans le livre. Je pense à celle de John Lennon que vous avez tenté de croiser dans
failli,
un...
J'ai failli
voilà.
croiser.
Ouais. Mais vous avez été l'un des premiers à pouvoir entendre ce titre de Lennon. Simple, efficace.
Génial, mais parfait. Ouais.
Parfait. Merci Louis Bertignac, jolie petite histoire en attendant l'album à venir dans quelques mois, tout ça au Cherche Midi et demain en effet, zéro viande, zéro poisson mais 100% gourmandise avec Jean-François Piège. À bientôt.
Embrasser
Richard et Jean-Louis pour nous.
J'ai envoyé un petit SMS.
Évidemment, il y en a plein qui sont arrivés pendant l'émission, vous allez voir.